Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, je vous retrouve pour l'Amérique et vous, pour une rétrospective de l'année 2014. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. L'annonce surprise d'un recensement de la population en 2015 en République démocratique du Congo suscite les craintes de l'opposition qui y voit une stratégie du président Joseph Kabila afin de retarder l'élection de 2016 et de se maintenir au pouvoir. C'est à l'occasion de son discours de nouvel an que M. Kabila a annoncé ce recensement pour les élections locales, municipales et provinciales. Mais l'opposant Vital Kamerhe, ancien proche collaborateur de M. Kabila, a dit à l'AFP qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une astuce trouvée pour le glissement des échéances électorales. Des soldats gambiens menaient ce vendredi à Banjul une opération porte-à-porte à la recherche de participants à l'attaque armée ayant visé le palais présidentiel il y a 4 jours en l'absence du président Yahya Jammeh. Selon un correspondant de l'agence France Presse, la capitale gambienne demeurait sous forte surveillance des forces de défense et de sécurité qui poursuivaient leur patrouille et conservaient leur point de contrôle installé à ses principaux accès depuis mardi, jour de l'attaque. Michel Joseph.
Des militaires en armes sont en train de faire du porte-à-porte. Ils pensent que les assaillants se cachent toujours dans la ville, a affirmé une habitante de Banjul sous couvert d'anonymat. Aucune information n'avait pu être obtenue par l'AFP de sources sécuritaires ou officielles sur cette opération qui n'a fait l'objet d'aucune annonce publique. Selon plusieurs sources militaires et diplomatiques, l'assaut était une tentative de coup d'État mise en échec par les forces gambiennes alors que le président Yahya Jammeh était en visite privée à Dubaï. M. Jammeh est rentré à Banjul dans la nuit de mardi à mercredi, a lui assuré qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de coup d'État, mais d'un assaut mené par un groupe de terroristes soutenu par des puissances qu'il a refusé d'identifier. Il a cependant évoqué des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Depuis mardi, plusieurs dizaines de civils et de militaires ont été arrêtés en Gambie et interrogés par l'Agence nationale du renseignement, a indiqué à l'AFP une source proche de cette agence. Le régime de M. Jammeh au pouvoir depuis 20 ans a souvent été accusé de violation des droits de l'homme, menant régulièrement des purges contre ses opposants.
Au Niger, le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Mahamadou, l'ex-président du Parlement nigérien devenu le principal opposant au président Mahamadou Yousoufou, est jugé par contumace avec une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse. Ils sont tous accusés de trafic d'enfants. La haute cour du Kenya a suspendu ce vendredi 8 clauses d'une loi antiterroriste promulguée voici 2 semaines par le président Uhuru Kenyatta. La décision fait suite aux objections soulevée par l'opposition concernant la constitutionnalité de la législation. Une attaque du groupe islamiste somalien Al-Shabaab ce matin contre les troupes somaliennes a fait 6 morts et au moins 18 blessés selon les autorités. Les précisions d'Issia Kaba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Des témoins rapportent que les assaillants ont pris pour cible un poste de contrôle tenu par des soldats somaliens dans la banlieue de Baidoa, ville située à environ 245 km à l'ouest de Mogadiscio, la capitale. Une fusillade s'en est suivie, faisant des victimes dans les deux camps, soulignent les autorités. Dans un incident séparé, un agent de sécurité a été tué et 4 autres personnes ont été blessées lorsqu'un véhicule a explosé à Galkayo, dans le centre de la Somalie. 2 enseignants kenyans figureraient parmi les blessés. Le véhicule en question était utilisé par les enseignants se rendant à un collège local. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. En début de semaine, les États-Unis ont confirmé la mort du chef des services de renseignement d'Al-Shabaab, Tahalil Abdi Shakur, dans un raid aérien américain contre un véhicule dans la ville de Sakao. Selon le Pentagone, la mort de Tahalil aura un grand impact sur les capacités opérationnelles du groupe islamiste somalien.
Et les autorités italiennes ont pris le contrôle d'un cargo à la dérive, transportant 450 migrants, dont des femmes et des enfants, et que l'équipage avait abandonné à son sort au large de la Calabre. L'AFV maintenant, l'Amérique vous, c'est avec vous dans 2 minutes.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Nous sommes le 2 janvier 2015. Bonne année. L'Amérique et vous fait la rétrospective de l'année écoulée. Immigration, le sommet USA-Afrique, la francophonie pour ne citer que cela. Bonsoir et bienvenue à Washington.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
Aux États-Unis, les électeurs américains ont donné le contrôle des deux chambres du Congrès aux républicains pour les 2 dernières années du président Barack Obama à la Maison-Blanche. Les républicains ont gagné les élections à mi-mandat et ont pu ainsi reconquérir le Sénat et renforcer leur majorité à la Chambre des représentants. Michel Joseph.
Avant les élections, les démocrates avaient 55 sièges sur 100 que compte le Sénat, mais les républicains ont conquis au moins 7 sièges avec leur victoire dans l'Arkansas, le Colorado, l'Iowa, le Montana, la Caroline du Nord, le Dakota du Sud et la Virginie occidentale. C'est un cinglant revers pour le président Obama, qui n'était certes pas candidat, mais dont la politique était soumise à une sorte de référendum. Le sénateur républicain Mitch McConnell du Kentucky, qui a facilement été réélu, est en passe de devenir le leader de la majorité au Sénat. Il a promis de rechercher le consensus avec M. Obama sur certaines questions, mais lors de la nuit électorale, il a aussi promis de poursuivre les efforts de son parti visant à revoir la taille du gouvernement fédéral.
Mes amis, cette expérience avec un gouvernement budgétivore a assez duré. Il est temps d'aller dans une autre direction.
Les républicains auront non seulement le contrôle du Sénat à partir de janvier, mais ils ont gagné en plus 13 sièges sur les 435 membres de la Chambre des représentants qu'ils dominaient déjà. En contrôlant les deux chambres du Congrès, ils pourraient remettre sur la table les différents contentieux avec le président Obama, avec en prime la question de la réforme des soins de santé ou Obamacare. De nombreux républicains ont toujours dénoncé la trop grande implication du gouvernement et demandé son abrogation.
Barack Obama a certes perdu le contrôle des deux chambres du Parlement pour ses 2 dernières années à la Maison-Blanche, mais le chef de l'exécutif américain n'entend pas baisser les bras et compte mener à bon port de nombreux projets. Timothée Donangmaï.
Dans une interview à la chaîne de télévision publique NPR, M. Obama n'a pas exclu une amélioration des relations avec l'Iran et il a cité les cas de Myanmar et de la Tunisie comme des exemples où la démocratie a des chances d'avancer. Le président a noté que ses récents décrets sur l'immigration et la normalisation avec Cuba sont le résultat d'années de travail. Il trouve déterminante l'année 2014, une année de percée selon M. Obama.
But at the end of 2014, I could look back and say we are as well positioned today.
À la fin de 2014, je peux jeter un regard en arrière et dire que nous sommes bien placés aujourd'hui sur le plan économique depuis pas mal de temps et qu'on a plus que jamais besoin du leadership américain à travers le monde et que ça donne un sentiment libérateur dans la mesure où on commence à voir les fruits du grand travail que nous avons fait. Le président Obama veut maintenant se focaliser sur des projets à long terme tel que s'assurer que tous les Américains bénéficient d'une économie qui s'améliore. Et sur le plan international, il a déclaré.
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them.
Alors que nous faisons face au groupe État islamique et tentons de le faire reculer et d'assurer sa défaite en fin de compte, et pendant que nous nous retirons de façon responsable d'Afghanistan, des décisions comme l'initiative diplomatique avec Cuba sont celles dont je veux m'assurer de la poursuite. Parce qu'en partie, et franchement, c'est plus facile pour un président de le faire vers la fin de son mandat plutôt qu'au début. Envisage-t-il l'ouverture d'une ambassade à Téhéran pendant qu'il renoue les liens diplomatiques avec la Havane? À cette question, M. Obama a répondu que l'Iran et Cuba sont différents. Selon lui, il était temps, après un demi-siècle de la même politique, de changer d'attitude vis-à-vis d'un petit pays qui ne pose aucune menace significative. Quant à l'Iran, il s'agit d'un pays grand et sophistiqué qui a appuyé le terrorisme d'État, est hostile à Israël et tente de se doter d'armes nucléaires, a-t-il dit. Concernant la Russie et ses actions en Ukraine, M. Obama a fait remarquer que la pression des sanctions rend l'économie russe assez vulnérable et de plus en plus difficile à gérer.
Républicains et démocrates sont plus que jamais polarisés quant aux mesures prises par le président Barack Obama, notamment sur la question de l'immigration. Le président Obama a pris un décret pour régulariser temporairement la situation de 5000 clandestins. La mesure fait grincer des dents chez ses opposants.
Beaucoup de sans-papiers militent pour la réunification des familles. Le président Barack Obama a promis d'agir.
J'entame un nouvel effort pour renforcer notre système d'immigration autant que je puisse le faire sans le Congrès. Si le Congrès ne fait pas son travail, au moins nous pouvons faire le nôtre.
Côté républicain, le sénateur Jeff Sessions s'insurge.
Congress passes law. The president must execute the law.
Le Congrès adopte les lois. Le président promulgue ces lois. Le président n'a pas le droit de faire la loi, de mener des actions contraires à la loi.
Les velléités de réforme du président Obama sont compliquées par le déferlement, depuis octobre 2013, de dizaines de milliers de mineurs originaires d'Amérique centrale qui franchissent illégalement la frontière. La législation en vigueur leur donne le droit d'être entendus par un juge. Les autorités sont dépassées, la classe politique s'interroge. Pat McCrory, gouverneur de la Caroline du Nord.
Since the health status of these children is unknown,
puisqu'on ignore tout de l'état de santé de ces enfants, pose-t-il un risque aux enfants en Caroline du Nord? Si leur nombre augmente à ce rythme, cela pourrait avoir un impact grave sur les ressources dont nous disposons actuellement pour prendre soin des enfants de la Caroline du Nord.
Certains parlementaires républicains accusent le président Obama d'avoir encouragé ce vaste mouvement migratoire illicite, renforcé par la rumeur que son administration n'allait pas expulser les jeunes sans papier. Les démocrates s'indignent du refus des républicains à la Chambre d'adopter une réforme de l'immigration. Face à l'impasse de l'avis de Thomas Mann, analyste de la Brookings Institution, le président Obama n'a pas grand-chose à perdre en agissant de manière unilatérale.
Barack Obama et Raúl Castro ont marqué un coup spectaculaire en fin d'année avec l'annonce d'un rapprochement entre leurs deux pays, les États-Unis et Cuba, de l'avis de beaucoup. Ce fut un événement historique. Lionel Gaïma.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Prenant la parole à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a rappelé que les mesures rigides prises à l'encontre de Cuba, depuis plus d'un demi-siècle, n'ont pas fondamentalement changé les réalités politiques sur l'île. L'embargo n'a tout simplement pas eu l'effet escompté et Barack Obama veut normaliser les relations américano-cubaines.
I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961.
Le président Obama dit qu'il a demandé au secrétaire d'État John Kerry d'entamer immédiatement des discussions sur la normalisation des relations diplomatiques avec la Havane. Il y aura également une révision quant à la désignation de Cuba comme une nation terroriste. Les voyages entre les deux pays seront désormais plus faciles. Et M. Obama souhaite voir une coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le président américain a toutefois souligné que son gouvernement n'abandonnera pas ses positions sur les questions de démocratie et de droits humains, deux points soulevés par les critiques de cette normalisation. Alors que Barack Obama annonçait ce changement dans la politique américaine vis-à-vis de l'unique île communiste de la Caraïbe, son homologue Raúl Castro s'adressait au peuple cubain, disant entre autres qu'il était temps de laisser derrière nous l'héritage de la colonisation et du communisme. M. Obama et Castro s'étaient entretenus par téléphone mardi, mais Fidel Castro, le leader emblématique de la révolution cubaine et grand frère de l'actuel président, n'a pas pris part aux discussions, a déclaré un responsable cité par l'AFP. A signalé que le pape François jouait un rôle crucial dans le rapprochement entre les deux pays, ce pour lequel les deux leaders l'ont remercié. Les États-Unis et Cuba, qui séparaient seulement par les 150 km du détroit de Floride, n'ont plus de relations diplomatiques officielles depuis 1961. Vivement critiqué à Cuba, l'embargo américain maintenu depuis 1962 est condamné chaque année aux Nations Unies à une écrasante majorité.
« L'Amérique et vous, rétrospective de l'année 2014. Dans un instant, on visite les relations entre l'Afrique et les États-Unis. L'Ebola, c'est la psychose qui a marqué cette année. Le virus à fièvre hémorragique a fait à ce jour environ 8000 morts. Le docteur Nkosi Dambita nous en parle.
La première flambée a eu lieu en 1976, donc ça fait 40 ans pratiquement. Et à travers l'Afrique, il y a eu probablement une quarantaine de flambées déjà, c'est-à-dire en moyenne une flambée par an. Et le Ebola semble avoir une prédilection pour l'Afrique centrale, notamment le Congo, l'Ouganda. De 76 à cette nouvelle épidémie en Afrique de l'Ouest, il y a eu, disons, à peu près 2400 cas qui ont été recensés, dont 1500 décès. Et depuis lors, depuis cette nouvelle flambée en Afrique de l'Ouest, on a dépassé les 2600, dont 1400 décès.
Docteur Nkosi Dambita, spécialiste de santé publique, enseignant à l'université John Hopkins à Baltimore aux États-Unis, il parlait de l'Ebola. Washington a accueilli du 4 au 6 août plus de 50 chefs d'État africains à l'invitation du président Obama pour un sommet États-Unis-Afrique, un événement qualifié d'historique. Cette rencontre au sommet devait permettre aux États-Unis de rattraper le temps perdu en Afrique face aux économies émergentes. Bilans et perspectives de ce sommet, on écoute l'analyse de Chika Kanyori, éditeur du magazine Transatlantique.
Il faut d'abord souligner, comme tout le monde l'a dit, que c'est historique, puisque c'est quand même la première fois qu'on organise un sommet entre les États-Unis et l'Afrique au niveau des chefs d'État, parce qu'il y a eu quand même d'autres occasions. Mais on doit aussi comprendre, comme on l'a dit, qu'il y a eu une certaine précipitation dans la préparation, puisque, comme on le sait, beaucoup de gens en Afrique reprochaient au président Obama de ne pas beaucoup s'occuper de l'Afrique. Et on a l'impression qu'il a essayé de faire quelque chose quand même rapidement avant la fin de son mandat. Et on peut dire que pour une première chose, ça va aller comme...
On va commencer par ce qui a marché. Qu'est-ce qui a marché
dans le sommet? Ce qui a marché dans le sommet, c'est que quand même, pour la première fois, comme on l'a dit, il y a eu cette réunion entre chefs d'État africains et le chef des États-Unis, qui est d'ailleurs d'origine africaine, ce qui est déjà quelque chose d'important. Il y a eu aussi les résolutions, par exemple, concernant l'électrification, c'est-à-dire un projet que le président Obama avait déjà annoncé lors de sa dernière visite en Afrique, et où on a augmenté l'argent, je pense, jusqu'à 30 milliards de dollars pour l'électrification. C'est clair qu'il n'y aura pas d'industrialisation de l'Afrique tant qu'on ne développe pas le système hydroélectrique, mais on peut aussi... On peut dire qu'il aurait fallu quand même y ajouter aussi le grand projet du Congo Inga, qui est déjà à la Banque mondiale et à beaucoup d'autres, qui coûte peut-être 80 millions de dollars et qui peut électrifier plus de 40% de l'Afrique, notamment l'Afrique centrale et du Sud. Et donc, il y a aussi eu le problème concernant le terrorisme en Afrique, où on essaie de voir comment arriver à mettre fin notamment à Boko Haram et aussi au Shabab du côté de la Somalie, qui embête des pays comme le Kenya, le pays d'origine du père du président Obama, puisqu'il est impliqué dans la lutte contre les Shabab.
Mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ce qui n'a pas marché, c'est que chez les Africains, ce que j'ai pu entendre partir d'Afrique ou des gens qui étaient sur place, et les organisations noires américaines se sont plaintes de n'avoir pas été sérieusement associées à la réunion, premièrement. Puisqu'il y a quand même des associations noires américaines qui travaillent depuis très longtemps sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique, et dont certains, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Quand on regarde, par exemple, comme le Black Caucus en tant qu'institution, puisque les gens ont rencontré quand même les congrès en nombre, mais en tant qu'institution, le Black Caucus est parmi ceux qui ont fait des efforts contre l'apartheid et qui ont quand même réussi à pousser les États-Unis à imposer les sanctions qui ont fini par mettre fin à l'apartheid. Il y a eu aussi l'absence, on a l'impression, d'une partie réellement africaine des choses, puisqu'on a l'impression, comme d'habitude en Afrique, hein, les chefs d'État et l'Union africaine, on a l'impression qu'ils n'ont rien proposé de sérieux, puisque, et c'est là aussi l'autre problème, que dans l'avenir, peut-être qu'il faut voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer eux-mêmes, puisqu'il est tout à fait impensable qu'il y ait un sommet sur les États-Unis et l'Afrique, et qu'on ne parle pas de la partie culturelle et historique, qui c'est la seule chose qui différencie un sommet États-Unis-Afrique d'un sommet États-Unis-France ou Chine.
Avant le sommet États-Unis-Afrique, le président Obama a invité 500 jeunes Africains dans la capitale américaine dans le cadre du YALI, une occasion de renforcer leurs capacités dans le leadership. Mademoiselle Martine Komo, soignée, est venue de la République centrafricaine.
Alors, ce programme s'appelle le programme des jeunes leaders africains, ou encore Washington Fellow. Comment nous avons été choisis? Nous avons été choisis sur la base de projets que nous avions pour nos pays, et aussi sur la base de notre vision en tant que leader dans nos communautés, au sein de nos communautés.
Okay. Est-ce que vous pouvez lever un coin de voile sur votre projet à vous? Qu'est-ce qui a amené les Américains à vous choisir?
C'est sur la base du projet que j'ai pour la jeunesse centrafricaine, à savoir la création d'un centre de formation et d'un espace de co-création pour la jeunesse centrafricaine, où ils peuvent venir, s'ils ont des organisations, ils ont déjà développé des organisations, où ils peuvent venir renforcer leurs capacités, où ils peuvent venir s'asseoir pour travailler sur leurs projets, vraiment créer un espace de co-création, et aussi de leur permettre de, enfin, cet espace servira aussi pour promouvoir ce qu'on appelle en anglais le community service, donc c'est-à-dire vraiment travailler avec les communautés, c'est l'engagement des jeunes au sein de leur communauté, aussi bien sur les questions de santé, de plaidoyer en matière de santé, de plaidoyer pour la paix surtout, la paix dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, qui est un grand enjeu pour la République centrafricaine, et voilà, vraiment renforcer l'impact des jeunes dans le relèvement et le développement de la République centrafricaine.
Le 29 et 30 novembre 2014 s'est tenu le 15e sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal. Michaël Jean, du continent américain, est devenue la secrétaire générale de la francophonie. Elle fut la 27e gouverneure générale du Canada auparavant, représentant donc de la reine Elisabeth, chef d'État en titre. Quels sont ses projets à la tête de la francophonie? On écoute Michaël Jean.
Le secrétaire général n'agit pas seul. Le secrétaire général agit en concertation avec les chefs d'État et de gouvernement. Ce que j'ai pu vérifier et voir sur le terrain, c'est à quel point partout, dans toutes les régions, sur le continent africain et ailleurs, nous voyons des États ensemble examiner des situations de déstabilisation pour leur pays et mener ensemble des opérations concertées. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Ce faire ensemble, cette capacité que nous aurons justement de rassembler nos efforts, surtout alors que les pays veulent miser sur leur croissance, sur la prospérité, sur le développement, sachant très bien par exemple qu'une crise au Mali n'est pas une crise malienne. C'est une situation qui se vit au détriment et qui peut mettre en péril la stabilité nécessaire pour l'ensemble des pays de la région, pour l'ensemble des pays du continent. Donc, je retiens ce mot et cette recommandation très forte du secrétaire général Abdou Diouf lorsqu'il a dit « Nous devons renforcer davantage notre action en termes de prévention », c'est-à-dire avec toutes nos antennes déployées, entendre mieux les signaux qui nous sont envoyés également par les populations qui voient venir les crises, savoir les prévenir. Créer de l'espoir aussi pour les jeunes, c'est faire autrement, c'est faire ce qu'il faut pour désamorcer aussi ces mouvements de déstabilisation. Être à l'écoute de leur espérance, miser sur le développement, c'est leur donner aussi la possibilité de dire non, non, je crois en mes possibilités, il y a un espoir pour moi dans mon pays, et à ce moment-là, tous ces prédateurs qui cherchent à s'installer et à agir sur le sentiment de désenchantement des jeunes, cette impasse, ce sentiment d'impasse et d'un avenir bouché, trouveront en face d'eux des jeunes capables de dire « Voilà, on est en train d'investir dans le capital humain, dans ce que j'ai à offrir, dans les qualifications, et c'est comme ça que nous devons avancer. »
Les mois de juin et juillet ont été marqués par la 20e Coupe du monde de football, un mondial 2014 remporté par l'équipe d'Allemagne face à l'Argentine. En finale, l'Allemagne remporte ainsi sa 4e Coupe du monde après 1954, 1974 et 1990. Lionel Messi, la star argentine, est tout de même élu meilleur joueur du tournoi. Camille Gros-Didier nous rappelle quelques grands moments à Sao Paulo dans une famille brésilienne.
Quand on arrive dans le quartier Arthur Alvim, à quelques rues du stade massif d'Itaquerón, c'est pour constater que 5 minutes avant le début du match, les rues sont vides, la circulation pratiquement inexistante et les magasins fermés. Alors que d'habitude, ces mêmes rues sont bondées et complètement congestionnées. Vous l'aurez deviné, c'est que les gens sont tous plantés devant leur télévision à attendre le début du match avec leur famille, leurs amis et leurs voisins. Nous sommes chez Renan Ereuju qui a invité ses tantes, ses oncles, neveux, nièces, cousins et copains à regarder le match de la soirée. À un moment donné, il semble que l'attaquant brésilien Neymar va marquer. Hurlement, émotion, mais ce n'est qu'une fausse alerte. En fait, le match ne fait qu'ouvrir la soirée. Ce qui compte, c'est ce rassemblement de la famille et des amis qui va se poursuivre tard dans la nuit.
Nós queremos receber a todos para conhecer esse povo que tem a sua cultura, o seu DNA.
C'est dans notre culture et on a ça dans l'ADN. Que vous soyez américain, africain ou italien, tout le monde est le bienvenu avec amour, s'exclame Renan Ereuju. Après le match, les commerces restent fermés, mais l'activité reprend dans les rues. Tout le quartier célèbre son
issue.
Les Brésiliens aiment beaucoup faire la fête. Nous aimons les fêtes, nous aimons nous retrouver avec beaucoup de monde. Les Brésiliens adorent cela. C'est un peuple très chaleureux, affirme Leandro Gomes da Silva, un habitant de Sao Paulo. Une chaleur humaine en évidence dans toute la ville, voire tout le pays.
Chaque humain est comme il est.
Je ne suis qu'un Africain.
Je veux marcher sur la lune, mais la voix c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais.
Je viens d'ici et je suis sénégalais. Je viens de France, mon enfance, moi je vais pas te l'étaler. Je repense souvent à l'Afrique, j'aimerais l'avoir décollé. Mais ce qui compte c'est la santé, ouais c'est la santé. Je voulais rentrer au G8 mais je ne suis qu'un Africain. Construire des bolides mais je ne suis qu'un Africain. Donner mon avis mais du poids, j'en ai aucun. Ils m'ont vidé de mon sang, faut comprendre, c'est des requins. Mon bout de pain, j'ai senti de loin, étant donné que j'ai un gros nez, ben on est plein, partager ça nous connaît, trop généreux, résultat, toutes nos terres sont volées, yeah.
Je vais te montrer mes papiers, ok, mes déstress. Ne parle pas comme si j'étais d'une autre espèce. Pour tous les Africains d'Europe aux States, qui rêvent de rouler dans des grosses caisses.
Je veux voir un Africain dans l'espace, yeah. Je veux plus voir l'Afrique à genoux. En attendant que les problèmes stassent, s'il y a un mafia, appelez-nous
Afrique. Ne jugez pas, chaque main est comme il est.
Je ne suis qu'un Afrique.
Je veux marcher sur la lune, mais la voix c'est m'humilier.
Ce sera tout pour cette édition de l'Amérique et vous, spéciale rétrospective 2014, Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Vous retrouverez en studio la semaine prochaine Timothée Denangmaï pour la version interactive de l'Amérique et vous. Bonsoir et encore bonne année. We'll